Donc ce soir, nous recevons monsieur... Ce matin, nous recevons donc monsieur Dan Sperber, donc qui a fait des études d'anthropologie, de sociologie, de linguistique, qui est actuellement directeur de recherche au CNRS et au CREA, c'est-à-dire le Centre de recherche en épistémologie appliquée. Ses recherches ont porté au fil des ans sur la théorie anthropologique, l'ethnographie de l'Éthiopie méridionale, la pragmatique linguistique, la psychologie évolutionniste, la psychologie expérimentale du raisonnement, l'étude philosophique des fondements communs aux sciences cognitives et aux sciences sociales. Il a publié de nombreux ouvrages, à commencer par « Le structuralisme en anthropologie », paru au Seuil en 1973, « Le savoir des anthropologues », chez Hermann en 82, la pertinence, communication et cognition aux éditions de Minuit en 89, la contagion des idées, théorie naturaliste de la culture chez Odile Jacob en 96, et enfin des idées qui viennent en collaboration avec Roger Paul Droit aux éditions Odile Jacob en 1999. Voilà, merci.
Merci. L'exposé de ce matin, ou pas de ce soir, se situe dans le cadre d'une des dimensions de mon travail, à savoir le travail sur la pragmatique linguistique que je fais depuis à peu près 25 ans en collaboration avec une linguiste britannique, Deirdre Wilson. Et l'expression la plus complète de notre travail est dans ce livre qui est indiqué ici, « La pertinence, communication et cognition ». Aux éditions de Minuit. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez trouver de plus en plus de mes textes en français ou en anglais sur ma page web, dont vous avez la référence ici, www.dan.sperber.com. Donc aujourd'hui, nous parlons de la communication, et plus particulièrement de la communication du sens. Et évidemment, c'est de la communication humaine qui nous intéresse. La communication humaine, elle est d'une part la chose la plus banale qui soit dans notre vie. Nous sommes des animaux communicants dans toute notre vie éveillée et en partie dans nos rêves. Nous communiquons bien sûr par la parole, comme je le fais maintenant, mais aussi par tant de gestes, d'expressions, d'écrits, de façons de faire, de façons de s'habiller. Il n'y a pas une autre espèce animale qui communique d'une façon véritablement comparable à la nôtre. La communication existe, bien sûr, dans un grand nombre d'espèces animales, mais aucune espèce ne donne tant de temps, de capacité, d'attention, de compétence à l'activité communicative, et aucune, encore de façon encore plus manifeste, ne communique une telle richesse et complexité de contenu. Donc la communication est pour nous une activité d'une banalité totale, que nous pratiquons, que nous faisons sans y penser, et souvent en y pensant, avec un taux de succès, si je peux dire, extraordinaire. Encore une fois, pensons à la richesse de tout ce que nous parvenons à communiquer, et avec évidemment aussi des échecs, des limites, qui sont les seuls moments, ces moments d'échec, où nous commençons à réfléchir aux difficultés de la communication. Pour le reste du temps, nous nous appuyons sur elle comme sur la chose la plus disponible et la plus évidente. Cette chose, donc si banale, que nous faisons si facilement, en même temps, pour l'analyste, pour le psychologue, pour le linguiste, est quelque chose d'éminemment problématique. Comment est-ce que la communication, en général, est-elle possible ? Encore une fois, on peut être leurré par la facilité avec laquelle nous l'accomplissons et ne pas voir le problème d'explication que cela pose. Ce problème, quel est-il ? Il est le suivant. Lorsque je communique, j'ai en tête certaines idées. Et si je réussis à communiquer, au terme du processus, mes auditeurs auront, sinon exactement la même idée, en tout cas une idée assez semblable, une copie, une version en tout cas, de l'idée que j'ai voulu communiquer. Or, les idées sont des choses qui naissent, vivent et meurent à l'intérieur des boîtes crâniennes et qui n'en sortent jamais. Ce sont des états mentaux réalisés dans des cerveaux et ce ne sont pas des objets ou des choses ou des propriétés de l'environnement commun aux êtres humains. Alors comment est-ce que je peux transmettre, partager avec vous quelque chose qui est dans mon cerveau étant donné que ça ne peut pas en sortir ? Tel est le problème, tel est le mystère même de la possibilité de la communication. Mystère, me direz-vous ? Bof ! Ce mystère est résolu depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps, on peut remonter, en fait, vous reconnaîtrez votre Aristote et d'autres, il est résolu depuis bien longtemps parce qu'il y a une théorie, au fond, très simple, qui résout le mystère, qui résout le problème. Et cette théorie, ou ce modèle, on peut l'appeler le modèle du code, et c'est l'idée suivante. C'est que ce qui permet de communiquer, ce qui permet de partager ces objets qui, par ailleurs, restent à l'intérieur de nos boîtes crâniennes, c'est la possession d'un code commun. Un code, c'est quoi ? Un code, c'est quelque chose qui permet d'associer à un sens, qui est donc à quelque chose de mental, une expression, c'est-à-dire quelque chose d'externe. Ou comme on dit souvent, à un message, encore une fois un contenu, quelque chose d'abstrait qui ne se réalise que dans un cerveau, un signal, c'est-à-dire quelque chose qui se réalise dans l'environnement et qui peut prendre par exemple la forme du bruit que j'émets en ce moment. Si on a un système qui peut être dans le cas d'un code simple sous la simple forme d'une liste, qui dans le cas d'un code plus compliqué prendra la forme d'une grammaire. Mais si on a un système qui permet d'associer à tout sens que l'on voudrait communiquer une expression et inversement à toute expression un sens, alors évidemment, le communicateur, en quelque sorte voulant communiquer un certain sens, choisit l'expression qui correspond à ce sens, l'émet dans l'environnement commun qu'il partage avec son destinataire. Le destinataire, disposant du même code, reconnaît l'expression, cherche en quelque sorte dans sa grammaire ou dans sa liste mentale le sens qui correspond, on retrouve le sens et ainsi le sens est communiqué du communicateur à son destinataire. Première idée de base. Ce modèle du code est un modèle indiscutablement possible, réalisable. C'est en effet une explication de comment la communication peut se produire et qui plus est, c'est une explication de comment la communication se produit dans pratiquement tous les cas de communication d'animaux non humains. Le modèle du code explique en effet bien la communication, que ce soit celle des abeilles ou celle des vervets ou de toutes les espèces animales qui sont capables de communication. Est-ce qu'elle explique aussi bien la communication humaine ? C'est là que le problème apparaît. Enfin, si on reste à l'intérieur du modèle du code, on dira oui, elle explique aussi bien la communication humaine, car les êtres humains disposent des codes les plus riches qui existent, à savoir des langues humaines. Les langues humaines sont des codes. Deuxième point. Ce sont des codes, et non seulement ce sont des codes, mais ce sont des codes qui permettent d'encoder précisément tous les sens que nous pourrions vouloir communiquer. Donc, troisième point, le modèle du code appliqué aux langues humaines dit en substance que le locuteur encode au moyen d'une expression le sens qu'il veut communiquer et l'auditeur décode l'expression et identifie ainsi le sens. Vous me direz, qu'est-ce qui ne va pas avec ce modèle ? Est-ce qu'au fond, la communication humaine n'est pas bien expliquée par cette idée à la fois simple et à laquelle nous sommes depuis longtemps habitués, mais qui au fond est assez belle dans son pouvoir explicatif ? Qu'est-ce qui ne va pas, me direz-vous, avec le modèle du code ? Eh bien, voilà ce qui ne va pas avec le modèle du code. Tiens, des fautes d'orthographe, là. Les expressions linguistiques sont riches de sens, et pourtant, donc il n'y a aucun doute sur le fait que les langues humaines sont en effet des codes, que les expressions de la langue encodent du sens, et que les sens que l'on peut encoder au moyen des langues humaines sont d'une richesse extraordinaire. Et pourtant, ces expressions ne donnent qu'une indication toujours ambiguë et toujours incomplète du sens voulu par le locuteur. Je vous en donne rapidement quelques exemples. Pardon. Je vais glisser ça. Prenez le premier dialogue. Pierre demande à Marie, « Veux-tu dîner avec moi ?» Elle répond, « J'ai déjà mangé. » Dialogue parfaitement compréhensible, typique des dialogues que nous avons tout le temps. Mais quel est le sens linguistique de la réponse de Marie ? J'ai déjà mangé. J'ai déjà mangé, ça veut dire que la locutrice, Marie, a mangé à un moment antérieur à l'énoncé. Ce qui est certainement vrai, sinon elle ne serait pas là pour le dire. Si elle n'avait jamais mangé. Et ça ne veut rien dire de plus linguistiquement. Je veux dire, son énoncé est vrai si une fois dans sa vie, elle a mangé une cacahuète. Pourtant, ce n'est pas ça qu'elle veut dire, ce n'est pas ça son vouloir dire, mais c'est ça le sens linguistique de l'énoncé. Non seulement elle veut dire, évidemment, qu'elle a mangé le soir même, en plus qu'elle a mangé plus qu'une cacahuète, mais qu'elle a mangé un dîner ou l'équivalent du dîner, mais en plus, elle veut dire, en disant cela, qu'elle ne veut pas dîner avec Pierre. Il y a d'une part, donc, l'explicite, ce qu'elle dit, c'est pas simplement qu'il lui est déjà arrivé de manger dans sa vie, mais qu'elle a dîné le soir même, et en le disant explicitement, elle implicite, elle communique implicitement un refus de la proposition que lui fait Pierre. Donc là, le sens voulu est nettement plus riche, aussi bien au niveau de ce qui est dit que de ce qui est impliqué, que ce qui est linguistiquement encodé. Ou bien, prenons un exemple classique, le deuxième exemple ici, Pierre dit « Encore un Armagnac ?» Marie répond « C'est moi qui conduis. » Ça n'est pas une réponse à la question que Pierre lui a posée. Pourtant, Pierre comprend bien que ce qu'elle veut dire, que le vouloir dire de Marie comporte une réponse, qui est une réponse négative. Non, elle ne veut pas un Armagnac, et la raison pour laquelle elle ne veut pas un Armagnac, c'est parce qu'elle conduit. Encore une fois, une grande partie de notre communication verbale consiste à communiquer un sens voulu implicite, qui donc, par définition, puisqu'il est implicite, n'est pas encodé dans l'énoncé. Ou bien prenez une phrase, troisième exemple, « La voiture de Jules est trop grande », phrase d'une banalité parfaite que nous comprenons tous. Que nous comprenons tous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi « la voiture de Jules » Ben, peut-être que ce qui vous vient en premier à l'idée, c'est que c'est la voiture dont il est propriétaire, mais ce n'est pas nécessaire. Ça peut être la voiture qu'il a louée, ça peut être la voiture qu'il a envie d'acheter, ça peut être la voiture qu'il a dessinée, ça peut être la voiture qu'il a conçue. Tout est possible. Il suffit qu'il y ait un rapport entre Jules et la voiture pour que l'expression « la voiture de Jules » serve à communiquer ce rapport, mais évidemment sans l'encoder. La phrase « et puis trop grande », qu'est-ce que ça veut dire « trop grande » Le locuteur qui dit quelque chose comme « trop grand » a en tête un certain critère par rapport auquel c'est trop grand. Une voiture peut être trop grande d'un certain point de vue et trop petite d'un autre. Donc la phrase « la voiture de Jules est trop grande » peut très bien, dans un contexte donné, vouloir dire « la voiture que Jules propose que nous volions est trop grande pour qu'on la cache dans le camion ». Mais ce n'est pas littéralement encodé. Et c'est l'ordinaire. L'exemple que je vous donne là, c'est l'ordinaire de la communication linguistique. Donc ce que j'ai essayé de montrer jusqu'ici, c'est ceci. C'est un point très simple, à savoir que le sens linguistique, le sens encodé par les expressions linguistiques est différent, et même très différent souvent, du sens voulu par le locuteur. Et donc, le modèle du code, dans sa simplicité, tel que je vous l'ai exposé, ne peut pas expliquer ce que nous arrivons tout le temps, tous les jours, à tout moment, à accomplir en communiquant par des moyens linguistiques. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est assez simple. Il se passe quelque chose de plus. Ce qui se passe de plus, c'est ceci. C'est que l'auditeur infère le sens voulu par le locuteur, et il l'infère à partir de deux types d'éléments qui sont d'une part le sens linguistique de l'énoncé, qui en effet est décodé et joue un rôle important, et d'autre part le contexte. Infère, ça veut dire quoi? C'est un mot qu'on emploie en psychologie et qui veut dire à peu près la même chose que raisonnement. Mais pourquoi est-ce qu'on emploie ce terme-là? C'est parce que c'est pas simplement par le goût de jargonner, c'est parce que lorsque l'on pense au raisonnement, on pense à un acte réfléchi, conscient, alors que la psychologie cognitive a montré que des processus mentaux semblables à un raisonnement, mais qui se passent de façon spontanée, automatique et largement inconsciente, opèrent à tous les niveaux, que ce soit dans la perception, dans la compréhension d'autrui, et en particulier dans la compréhension verbale. Donc on a un processus qui va de prémisse à une conclusion, qui en ce sens est comme un raisonnement, mais qui s'opère de façon à peu près automatique et inconsciente. Par exemple, lorsque vous aviez l'énoncé « J'ai déjà mangé » de Marie répondant à la proposition de Pierre « Veux-tu dîner avec moi ce soir ?» le sens linguistique proprement dit, à savoir qu'elle a déjà mangé, qu'il lui est déjà arrivé de manger dans sa vie, ne vous apparaît même pas. Automatiquement, spontanément, vous inférez le sens qui est approprié dans le contexte, à savoir qu'elle a déjà dîné le soir même. C'est une inférence qui se fait automatiquement. C'est une inférence, car ce n'est pas ça qu'elle a dit. C'est quelque chose que vous déduisez, que vous inférez de ce qu'elle a dit. Comment est-ce que s'effectue ce processus d'inférence? Mais je vous en dirai peu de choses ici. Simplement ceci, que dans le processus de la compréhension inférentielle, dans ce processus qui consiste à aller du sens linguistique au sens voulu, en tenant compte du contexte, l'auditeur est guidé par des considérations de pertinence. C'est un sujet que je ne développerai pas ici, mais qui évidemment est au centre des préoccupations de ceux qui étudient le rapport entre le sens linguistique des énoncés, le contexte et la compréhension de l'auditeur, et c'est cette étude qui est devenue l'objet d'une discipline, la pragmatique. Illustrons cela à nouveau avec l'exemple du dialogue entre Pierre et Marie. Pierre donc disait « Veux-tu dîner avec moi ?» Et Marie répondait « J'ai déjà mangé ». Encore une fois, le sens linguistique, c'est que le locuteur a déjà mangé dans le sens strictement littéral, donc c'est que l'action de manger s'est produite dans sa vie antérieurement au moment de l'énoncé. Le contexte a plusieurs éléments, en particulier, c'est une réponse à une demande de Pierre. Donc Pierre vient de proposer à Marie de dîner avec lui. Deuxième chose, dans le contexte, il n'y a pas simplement le contexte immédiat, il y a des connaissances d'arrière-plan, des connaissances générales, des connaissances culturelles. Dans la culture où ça se situe, la nôtre, il serait malpoli de la part de Marie de refuser sans donner de raison. On ne refuse pas une invitation sans donner de raison, c'est quelque chose d'assez... Donc Pierre est en droit de s'attendre que si elle refuse, elle lui donne une raison. Enfin, ça c'est une connaissance encore plus générale, quelqu'un qui a déjà dîné le soir même ne veut pas dîner à nouveau. Donc, tenant pour acquis que l'énoncé de Marie est pertinent dans le contexte où elle le prononce. Pierre enrichit le sens linguistique, le précise, le complète, et par exemple comprend non seulement qu'elle a déjà mangé, mais qu'en fait elle a mangé et qu'elle a dîné le soir même, que ce qu'elle a mangé était un dîner ou était équivalent à un dîner, et que c'était le soir même, car sinon ce qu'elle dirait ne serait pas pertinent. Il comprend, parce que en disant qu'elle a déjà dîné le soir même, elle indique, elle implicite qu'elle ne veut pas dîner avec Pierre, elle répond à sa question, car sinon sa réponse ne serait pas pertinente. Pour être pertinente, il faut qu'elle réponde à la question. Et enfin, il comprend qu'elle donne comme raison du fait qu'elle ne veut pas dîner avec lui le fait qu'elle a déjà dîné le soir même, donc elle explique son refus, à nouveau, pour satisfaire à des anticipations de pertinence. Donc il y a tout un processus inférentiel qui se fait à la vitesse de la parole. Nous parlons de fractions de secondes, qui est la chose la plus banale du monde. Dans ce genre de dialogue, Pierre comprend tout de suite ce sens voulu qui est nettement plus riche et plus complexe que le sens qui avait été encodé par l'énoncé de Marie. Donc, il y a dans la compréhension un aspect inférentiel qui est là en permanence. Alors, est-ce qu'il faut, dans ces conditions, réviser le modèle du code? Est-ce que c'est une première tentation? Dans la mesure où le modèle du code est un modèle qui est avec nous depuis les classiques grecs, que c'est la façon dont nous avons l'habitude de penser la communication, lorsque nous nous rendons compte qu'il ne fonctionne pas véritablement bien pour expliquer la communication humaine, on se dit, on va le réviser. C'est un conservatisme théorique qui, au fond, c'est un conservatisme théorique qui est tout à fait normal dans la pratique scientifique. Alors, comment est-ce qu'on pourrait le réviser? Bien, on va garder les deux premiers points du modèle du code. On va dire un code permet d'associer à tout sens une expression, à toute expression un sens. On va réaffirmer que les langues humaines sont bien des codes, mais on va ajouter qu'il n'est pas nécessaire d'encoder son vouloir dire de façon intégrale. Certes, dira-t-on, le locuteur peut encoder au moyen d'une expression le sens qu'il veut communiquer, l'auditeur peut décoder l'expression et identifier ainsi le sens voulu. Cependant, le locuteur peut aussi n'encoder que partiellement le sens voulu et laisser à l'auditeur la tâche d'en découvrir les aspects, encore une fois d'orthographe, non encodés par inférence. De faire donc ce processus d'inférence à partir de la signification linguistique, du sens linguistique et du contexte. Donc l'idée à ce moment-là, c'est qu'on a les langues sont des codes qui permettraient de communiquer pleinement, mais au fond, nous nous comprenons assez bien les uns les autres, nous sommes assez intelligents pour pouvoir utiliser des raccourcis. Et le rôle des processus inférentiels dans la communication, selon ce point de vue, c'est de fournir des raccourcis au processus de décodage. Il y a des moments, il y a des situations où ce n'est pas la peine de tout dire. Marie n'a pas besoin de dire « j'ai déjà dîné ce soir et par conséquent, je ne veux pas dîner avec toi ». Il suffit qu'elle dise « j'ai déjà mangé » et Pierre peut comprendre tout ça. Donc il y a une fonction en quelque sorte économique de l'inférence. Le problème avec cette manœuvre-là, cette façon d'essayer de résoudre le problème, est le suivant. C'est qu'on va être obligé, pour faire fonctionner cette nouvelle explication, pour réviser ainsi le modèle du code, de le compléter par une explication, par une description des processus inférentiels qui permettent d'aller du sens linguistique et du contexte au sens voulu. Et il ne suffira évidemment pas de dire « Ah, nous sommes des animaux si intelligents que tout cela va de soi ». Il s'agit de décrire véritablement les processus qui permettent cette compréhension. Or, il se peut qu'en décrivant, en expliquant ces mécanismes inférentiels de la compréhension, on arrive à quelque chose qui permette d'expliquer la communication de façon relativement indépendante du codage. Et en fait, nous sommes un certain nombre à penser qu'il faut inverser le rapport entre décodage et inférence. Dans cette conception, ou dans ce modèle que l'on pourrait appeler le modèle inférentiel de la communication, par opposition au modèle du code, on fait les hypothèses suivantes. Que le communicateur produit un indice du sens voulu. Après tout, on ne communique pas seulement avec des paroles, on peut communiquer avec des mimiques, on peut communiquer avec des gestes qui n'ont jamais été faits, on peut communiquer en pointant du doigt, on peut communiquer par toute une série d'expressions, on peut communiquer par des comportements qui sont sous-tendus par un code, qui sont des expressions codées, mais aussi par des comportements nouveaux qui n'appartiennent à aucun code particulier et qui néanmoins donnent un indice de ce que l'on veut transmettre à autrui. J'en donnerai des exemples dans un instant. Parmi les indices qu'on peut donner, il y a évidemment des indices linguistiques. Un énoncé fournit un indice extraordinaire de ce que veut dire un communicateur. Le destinataire, dans tous les cas, infère le sens voulu à partir de l'indice fourni et du contexte. Donc le rôle de l'énoncé, c'est de fournir un indice. Troisième point, donc un énoncé linguistique est un indice particulièrement riche et précis, mais seulement un indice du sens voulu par le locuteur. Ce n'est pas un encodage du sens voulu. Et quand on laisse une bonne part de travail inférentiel au destinataire, à l'auditeur, ce n'est pas au fond qu'on a été paresseux et qu'on aurait pu tout encoder. On ne peut jamais encoder pleinement ce que l'on veut dire. Il y a toujours un travail inférentiel qui est laissé au locuteur. En tout cas, telle est l'hypothèse qui est soutenue par ceux qui défendent un modèle inférentiel de la communication humaine. Qu'est-ce qui rend possible ce genre d'inférence ? Qu'est-ce qui rend possible de communiquer de façon inférentielle et d'utiliser des indices variés, et en particulier des indices linguistiques ? Eh bien, c'est une capacité psychologique éminemment caractéristique des êtres humains. C'est ce qu'on peut appeler la capacité méta-représentationnelle. La capacité méta-représentationnelle des humains correspond, aussi on peut dire plus simplement, à une capacité psychologique. Nous sommes tous des psychologues spontanés des uns des autres. Et en cela, les êtres humains diffèrent pratiquement de toutes les espèces animales. Il est possible que nos plus proches voisins, les grands singes, aient un minimum de psychologie comme nous l'avons, c'est-à-dire un minimum de capacité de voir dans des membres d'autres membres de leur propre espèce, de reconnaître des états mentaux, des croyances, des désirs. Mais ce n'est même pas certain. En revanche, pour nous, êtres humains, rien de plus automatique, de plus spontané, de plus constant que le fait de nous voir les uns les autres comme mus par des désirs, mus par des croyances, mus par des idées, mus par des états mentaux. Donc les êtres humains ont la capacité d'attribuer des représentations mentales à autrui, représentations mentales, c'est-à-dire des croyances, des désirs, des craintes, des hypothèses, etc. Et nous sommes uniques, en tout cas dans l'amplitude qu'a cette capacité chez nous. Donc c'est cette capacité psychologique méta-représentationnelle, c'est-à-dire de représenter les représentations mentales d'autrui. Des méta-représentations sont des représentations de représentations. Cette capacité méta-représentationnelle, à quoi elle sert ? Elle permet de mieux comprendre et prédire le comportement d'autrui. Et à quoi ça sert ? Ça sert à mieux coopérer avec autrui, ou bien à exploiter autrui, ou bien à se protéger, se défendre d'autrui. Le pouvoir explicatif, le pouvoir prédictif qu'on a du comportement d'autrui, si on a cette capacité métareprésentationnelle, cette capacité psychologique, est évidemment beaucoup plus grand que si on voit le comportement d'autrui simplement comme des mouvements d'un corps. Mais encore une fois, pour les autres espèces animales, voient les mouvements des membres de leurs propres espèces ou celles d'autres animaux comme des mouvements d'un corps, et non point comme des actions guidées par des états mentaux. Et cette capacité métareprésentationnelle, elle n'a pas pour fonction première la communication. Cependant, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant, elle permet une nouvelle forme de communication, une forme de communication qui n'existe pas autrement dans le monde animal, à savoir la communication inférentielle. Et laissez-moi illustrer cela par une petite histoire. Imaginons que nous sommes il y a, disons, 200 000 ans. Attendez, alors là, je vais avoir des problèmes de présentation, mais je vais les résoudre. On va faire comme ça. Voilà. Alors, il faut lire cette histoire par le bas. Donc, je vais remonter, vous lisez le dernier paragraphe, et on va remonter. Donc, nous sommes il y a 200 000 ans, des Homo sapiens tout juste apparus sur la planète. Sont là en train d'interagir. Deux d'entre eux en particulier, que nous appellerons Marie et Pierre. Alors Marie, elle est là en train de cueillir une baie sur un buisson. Elle la mord, le goût est amer, elle infère du goût amer que ces baies sont immangeables et elle la recrache. Bon, rien de particulier jusqu'à maintenant. Sauf qu'il se trouve que Pierre, on descend un petit peu, Pierre en fait l'observe. Il est peut-être caché derrière un arbre. Il observe Marie et, comme il a justement cette capacité métareprésentationnelle, cette capacité de voir le comportement de Marie comme mu par des croyances et des désirs, il infère de ce qu'elle fait, du fait qu'elle a pris cette baie, qu'elle a mordue et qu'elle l'a recrachée, il en infère qu'elle pense que ces baies sont immangeables et il en conclut lui aussi qu'elles le sont. Donc il arrive à se former une pensée qui est semblable à une pensée de Marie parce qu'il est capable d'interpréter son comportement comme mu par des états mentaux. Ce n'est pas de la communication encore. Mais vous avez une reproduction de pensée qui vient du fait qu'il est capable de reconnaître la pensée de l'autre. Et s'il pense que cette pensée de l'autre est justifiée, s'il pense que Marie, au fond, si elle a recraché cette baie, c'est que cette baie était en effet immangeable, eh bien, lui, il n'a pas besoin de faire l'effort de prendre la baie ni d'en avoir le goût amer dans la bouche. Il ne sera même pas tenté de la manger. Bon, dans cette histoire-là, encore une fois, on n'a pas affaire à de la communication, et au fond, Marie, ne sait, telle que je l'ai racontée, ne sait même pas que Pierre la regarde. Mais remontons un petit peu plus haut. Imaginons une version un peu différente de l'histoire. En fait, Marie sait, dans cette nouvelle version de l'histoire, elle sait que Pierre l'observe, que Pierre la regarde. Et elle, non seulement elle le sait, mais elle le souhaite. Et elle le souhaite précisément parce qu'elle veut agir sur les états mentaux de Pierre. Elle veut lui faire penser que ses baies sont immangeables. Donc, en quelque sorte, cette fois-ci, elle veut l'informer. Elle a une intention informative, hein, elle a une intention informative d'informer Pierre du fait que les baies sont immangeables, et elle accomplit cette intention en ayant un comportement qui est interprété par Pierre comme établissant qu'elle pense que ces baies sont immangeables. On n'a toujours pas affaire à la communication, mais on a affaire à une transmission intentionnelle de contenu. C'est déjà mieux. Pourquoi d'ailleurs est-ce que Marie, qu'est-ce qui pourrait amener Marie à vouloir faire une chose pareille ? Ça dépend si elle est bienveillante vis-à-vis de Pierre ou malveillante vis-à-vis de Pierre. Si elle est bienveillante vis-à-vis de Pierre, au fond, elle veut l'informer, elle veut l'aider, à ce qui pourrait l'aider en particulier à ne pas manger ces baies qui peuvent être empoisonnées. En revanche, elle peut aussi être malveillante vis-à-vis de Pierre, vouloir se garder de ces délicieuses baies pour elle seule, et comme elle sait que Pierre la regarde, elle fait semblant de les recracher avec dégoût, pensant que lui, là, du coup, la laissera tranquille et qu'elle pourra en profiter toute seule. Et ça, c'est le problème de la communication. À la différence de nos sens qui ne sont pas particulièrement disposés à nous tromper, ils nous trompent parfois, mais c'est à cause de leur imperfection, la communication sert aussi bien à informer qu'à tromper autrui. Mais remontons un petit peu plus dans le tableau. Et pour ça, on va faire un peu de technologie. Il se trouve que Pierre s'est rendu compte que Marie voulait qu'elle l'observe, il a compris ce qu'elle voulait faire. comment ça s'est produit? Par exemple, lui était là, derrière elle, et il s'est rendu compte qu'elle vérifiait qu'elle était bien regardée par lui. Alors, du coup, il comprend qu'elle veut agir non seulement sur les baies, en les mangeant, mais qu'elle veut agir sur ses états mentaux à lui. Quel effet ça va avoir sur Pierre de se rendre compte que c'est de façon intentionnelle, que c'est à son usage, ou en tout cas en partie à son usage, qu'elle s'engage dans tout ce comportement? Eh bien, ça dépend justement de savoir si Pierre pense qu'elle est bienveillante ou qu'elle est malveillante. S'il pense qu'elle est malveillante, il ne sera pas convaincu, du coup, il cessera de croire, il cessera d'en inférer que les baies sont immangeables. Il comprendra qu'elle a voulu, que lui pense que les baies sont immangeables, mais il ne le croira pas. À l'inverse, s'il pense qu'elle est bienveillante et qu'elle fait cela pour son bien, s'il pense qu'elle fait cela pour son bien, alors à ce moment-là, il en sera encore plus convaincu. Ça lui donnera une raison supplémentaire de penser que les baies sont immangeables si elle a fait l'effort de lui donner à penser que les baies sont immangeables. Et remontons encore d'un cran, et imaginons que Marie veuille non seulement informer Pierre du fait que les baies sont immangeables, mais veuille l'informer du fait qu'elle veut l'en informer. Elle veut être observée par Pierre. Elle le veut manifestement. Disons, une façon dont elle pourrait le réaliser est simple, c'est avec un échange de regards. Elle s'assure qu'il le regarde et qu'elle a compris qu'il a compris qu'elle veut lui faire savoir quelque chose. Alors, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, qu'on arrive à cette intention de deuxième ordre, et qui est en fait une méta-représentation de quatrième ordre, mais je vous épargne le détail de la chose. Quand Marie a non seulement l'intention d'informer Pierre de l'immangeabilité des baies, mais a aussi l'intention de deuxième ordre de l'informer de son intention, à ce moment-là, quelque chose de complètement nouveau apparaît. Quelque chose de complètement nouveau apparaît, et qu'est-ce qui apparaît de nouveau? Ceci, qu'il n'est plus nécessaire pour Marie de faire tout cela, il n'est plus nécessaire pour elle de faire un acte qui s'explique en lui-même, indépendamment d'une intention de communiquer, puisqu'elle a manifesté cette fois-ci une intention d'agir sur les intentions, ouvertement sur les états mentaux de Pierre, il suffit qu'elle lui donne un indice de l'information, du fait de son intention informative. Donc au lieu de prendre véritablement la baie, de la mettre dans sa bouche, de la mordre, d'en recueillir le goût amer et de la cracher, elle pourrait simplement mimer cet acte. Elle pourrait faire... Sans plus, cela suffirait. Ou à supposer qu'ils ont déjà quelques symboles, quelques mots, une langue avec 4-5 mots, par exemple le mot « mauvais ». Elle pourrait pointer et dire « mauvais ». Et dans ce contexte particulier, le mot « mauvais » qui pourrait désigner des tas de choses différentes dans des contextes différents, sera interprété par Pierre comme indiquant que Marie veut lui faire comprendre que ses baies sont mauvaises, mauvaises à manger. Donc à partir du moment où on a une intention... Premièrement, d'informer autrui. Et deuxièmement, que l'on a l'intention d'informer autrui de cette intention. Une intention de deuxième niveau. On peut communiquer de façon inférentielle. On peut donner des indices de son vouloir dire qui sont intelligibles pour autrui. On a donc affaire à une situation où on a deux types d'intentions. Et là, on va repasser dans l'autre sens. On a deux types d'intentions. On a d'une part une intention informative, qui est l'intention d'informer quelqu'un de quelque chose. Par exemple, d'informer l'intention que Marie a d'informer Pierre du fait que ses baies sont immangeables. Et puis, on a une intention communicative qui est une intention informative de deuxième niveau, qui est d'informer la personne à l'égard de laquelle on a une intention informative, informer Pierre, du fait qu'on a cette intention informative. On la rend publique, on la rend manifeste. Et à ce moment-là, encore une fois, ça ouvre la possibilité à la communication du sens par des moyens symboliques de tout ordre, des moyens encore qui peuvent être de l'ordre du langage, mais qui peuvent être aussi de l'ordre du mime ou du comportement improvisé, dès le moment où ce comportement donne véritablement un indice du vouloir dire du locuteur. Donc, il existe un rapport important, essentiel, entre les intentions informatives et communicatives d'une part et le sens voulu. Et quel est le rapport entre ces deux éléments? Eh bien, c'est que ce qui constitue le contenu d'une intention informative comme sens voulu, comme un sens, comme un objet nouveau en quelque sorte, c'est précisément que cette intention informative fait elle-même l'objet d'une intention informative de niveau supérieur, d'une intention communicative. C'est-à-dire lorsque quelqu'un veut informer quelque chose de quelqu'un d'autre et veut en même temps l'informer de cette information, alors le contenu de l'information qui est destinée à être transmise devient un sens voulu. Et c'est ici, c'est là qu'apparaît le sens à l'intérieur de ce modèle de inférentiel de la communication. Donc imaginons que nos ancêtres, Pierre et Marie et tous leurs congénères, avaient cette capacité métarepresentationnelle d'attribuer à autrui des états mentaux et exploitaient cette capacité pour s'informer les uns les autres. et pour s'informer de façon complexe avec des informations, des intentions informatives de deuxième niveau pour communiquer. Encore une fois, pour cela, ils n'avaient pas besoin de langage. Tout indice qu'ils pouvaient donner de leur intention, et le langage n'est pas le seul genre d'indice que l'on peut donner, tout indice qu'ils pouvaient donner de leur intention pouvait faire l'affaire. Mais évidemment, pour ces êtres capables de concevoir et de reconnaître des intentions communicatives, un langage comme le langage humain est extrêmement avantageux. C'est une source, c'est un répertoire infini d'indices d'une richesse extraordinaire. Le langage permet de donner des indices précis et détaillés du sens, de sens voulu, indéfiniment variés et complexes. Voilà donc la conception qui est développée dans cette perspective inférentielle. C'est l'idée que le sens voulu, qui est ce que, qui nous amène à communiquer, nous ne sommes pas intéressés par le sens linguistique en lui-même, mais seulement comme moyen de découvrir ce que veut dire le locuteur, que le sens voulu est rendu manifeste par des indices que donne un communicateur. Et que parmi les indices possibles, aucun n'est aussi puissant que les indices que donne le langage. Donc voici mes conclusions. Première conclusion, la communication humaine est un effet secondaire de la capacité d'attribuer des états mentaux à autrui. Le point qui divise dans l'histoire de l'évolution humaine les êtres humains des autres espèces auxquelles elles sont apparentées, plus que tout autre, ce n'est pas, comme on le pense souvent, le langage, encore qu'évidemment le langage joue un rôle fondamental, c'est cette capacité métarepresentationnelle, c'est cette capacité d'attribuer des états mentaux à autrui. Cette capacité rend possible une forme de communication inférentielle qui n'est pas trouvée qui n'est trouvée dans aucune autre espèce animale. À partir du moment où nous avons cette communication inférentielle qui se développe, les conditions sont réalisées pour que évoluent à l'intérieur de l'espèce à la fois les capacités biologiques nécessaires pour cela et pour le langage et les langues elles-mêmes, car ils fournissent une richesse d'indices qui devient pleinement utile à l'intérieur de cette espèce capable de communiquer inférentiellement. La communication inférentielle donc est possible sans langage, mais grâce au langage, son pouvoir expressif est incroyablement démultiplié. Donc vous avez une capacité de communication qui est fondée sur cette capacité de reconnaître en autrui un être animé par des états mentaux, mais cette possibilité reste relativement rudimentaire jusqu'à ce qu'apparaissent et que se développent les langues humaines qui donnent des indices d'une richesse incroyable du sens voulu par le locuteur. Et de ce point de vue, donc, le décodage du sens linguistique est n'est que et seulement une étape dans la découverte inférentielle du sens voulu par le locuteur. Ce qui nous intéresse, encore une fois, c'est le sens voulu. Ce sens voulu n'est jamais pleinement encodé. En revanche, il est découvert grâce à ce codage riche d'une structure qui, au fond, n'apparaît très peu à la conscience, qui est le sens linguistique. Le sens linguistique n'intéresse que les linguistes. La plupart du temps, nous n'en avons même pas conscience dans le flot de la conversation. Ce qui nous intéresse tous en tant que communicateurs, c'est le sens voulu par le locuteur. Et ce sens-là, encore une fois, il est inféré. Je vous remercie.
Qui vont passer dans la salle, si vous pouviez lever la main pour que les appariteurs puissent vous repérer et vous passer le micro. On va juste attendre qu'ils arrivent. Il y a une personne ici. J'arrive.
Monsieur, il est piquant de constater que dans votre remarquable exposé, vous avez réussi à éviter d'utiliser, ou pratiquement d'utiliser, les termes de sémantique et de pragmatique. Mmh. Alors, il est évident que ce sont là deux grands domaines d'évolution récente. Et la question que je voulais vous poser, c'est qu'en dehors des situations, disons, canoniques, où la différence entre la sémantique et la pragmatique est évidente, je ne commente pas pour gagner du temps, est-ce qu'il existe des domaines où pratiquement, notamment le domaine de la contextualité, où on ne sait pas trop s'il s'agit de sémantique ou de pragmatique, et que dans ces domaines-là, on est dans une situation d'interface qu'on ne peut pas scinder, d'interpénétration, ou au contraire, pensez-vous qu'on peut donner une définition qui permette de démarquer la pragmatique de la sémantique?
Je vous remercie de votre question. La sémantique telle qu'elle est normalement développée, c'est l'étude de ce que j'ai appelé ici le sens linguistique, du sens tel qu'il est encodé dans la langue. La pragmatique, c'est l'étude du processus qui va de ce sens linguistique à la découverte du sens voulu en s'appuyant sur le contexte. Et en effet, ce sont deux disciplines qui sont vouées à interagir. Vouées à interagir dans les deux sens. D'une part, parce qu'évidemment, pour le pragmaticien, il est important de disposer d'une description du sens linguistique que lui fournit le sémanticien. Mais pour le sémanticien, il est aussi important de pouvoir trier parmi les intuitions que nous avons comme sujet parlant, les intuitions de sens qui relèvent de la compréhension du sens voulu et celles qui relèvent véritablement du décodage du sens linguistique. Et la question est donc, il y a une interaction intense et inévitable entre ces deux disciplines. Il y a en même temps une espèce de tendance assez propre, naturelle à toute discipline, de vouloir étendre son champ et de la part des sémanticiens à essayer de résoudre des problèmes de compréhension autant que faire se peut au niveau du sens linguistique, et de la part des pragmaticiens, au contraire, à dire « Non, non, là, on peut expliquer la compréhension telle qu'elle s'effectue, telle propriété de la compréhension à partir du contexte. » La question posée est de savoir est-ce qu'on peut véritablement définir une frontière claire entre les deux domaines. Je vous répondrai qu'on n'y a que des cas, on a une série, un ensemble de problèmes empiriques. Et je ne pense pas qu'il y ait une espèce de réponse générale à donner, qui permettrait de dire, voilà, la frontière va se situer à tel endroit de façon précise. Cela dit, à partir du moment où on rentre dans des processus inférentiels qui tiennent compte du contexte, on est véritablement dans le domaine de la pragmatique. Et après tout, moi, je suis pragmaticien, et après avoir dit qu'il n'y a que des réponses empiriques, je vais essayer de faire quand même donner un élément de réponse de principe. L'idée qui a fondé en grande partie la pragmatique moderne est une idée avancée par le philosophe anglais Paul Grice, et qu'il appelait le rasoir d'Occam modifié. Cette idée, c'était qu'il n'était pas souhaitable de multiplier les sens au-delà du nécessaire. Prenez par exemple un mot comme « et », la conjonction de coordination « et ». Il y a une différence entre dire « Pierre et Marie se sont mariés et ont eu un enfant » ou dire « Pierre et Marie ont eu un enfant et se sont mariés ». Or, « et », d'un point de vue logique, exprime simplement la vérité des deux propositions conjointes. Mais on comprend très naturellement ces deux énoncés comme exprimant aussi un ordre temporel. Dans un cas, ils ont eu l'enfant, ils se sont mariés ensuite. Dans l'autre cas, ils se sont mariés, ils ont eu l'enfant ensuite. Mais est-ce que cette différence de sens est encodée par le mot « et » ? Alors, première version sémantique du problème, c'est de dire « oui, oui, et en fait a plusieurs sens ». Ce n'est pas simplement une conjonction logique qui indique que les deux propositions conjointes sont vraies l'une et l'autre. Il a parmi ses sens le sens de « et ensuite », il a aussi d'autres sens de « et donc », etc., qui apparaissent dans différents contextes. Ça, c'est la solution sémantique du problème. La solution pragmatique du problème, c'est de dire « non, non, et n'est, d'un point de vue sémantique, le sens linguistique de « et », c'est simplement de poser comme vrai les deux propositions conjointes. L'idée qu'il y a un ordre temporel entre les actions décrite à l'intérieur de la même phrase et conjointe par la conjonction « et », cette idée-là est découverte pragmatiquement pour, par exemple, des raisons de pertinence. Il n'est pas indifférent de présenter les choses d'une façon ou d'une autre. Si l'ordre est pertinent, alors, dans des conditions et à propos d'un énoncé où l'ordre temporel sera pertinent plutôt que l'ordre logique, eh bien, cet ordre temporel sera pris comme faisant partie du sens voulu. Donc, moi, je suis en sympathie avec l'idée qu'il ne faut pas multiplier les sens au-delà du nécessaire. Je trouve qu'une grande partie de la sémantique moderne a tendance à chercher à résoudre de façon compliquée des problèmes de compréhension du sens qui sont résolus de façon plus simple du point de vue pragmatique, mais c'est vrai qu'en fin de compte, il faut prendre les cas d'espèces un par un.
Merci. Deux questions, si vous permettez, monsieur. La première, on est amené à constater que, d'une part, un enfant accumule les connaissances des signes et des mots au fur et à mesure de son apprentissage de la communication. D'autre part, au fur et à mesure de l'évolution historique, les humains accumulent les indices linguistiques de leur communication. Serait-il pertinent de réfléchir à une histoire de l'évolution du code humain en particulier, qui aboutit à un acquis progressivement plus précis? C'est ma première question. Deuxième question, voyez-vous une différence entre la communication des sciences dites exactes, comme par exemple les mathématiques, et la communication des idées?
Alors, la première...
Merci.
Je vous remercie de vos deux questions. La première question, sans aucun doute, il y a une étude historique, et même à la fois dans l'histoire, dans le sens classique du mot histoire, et aussi de l'évolution des langues humaines et des codes humains. Il me semble que ce qu'on a tendance à constater, c'est que, quelles que soient les langues que l'on étudie, et donc les cultures à l'intérieur desquelles elles s'inscrivent, elles présentent toutes des ressources, non pas identiques, mais comparables. Évidemment, des langues comme le français ou l'anglais, qui sont des langues qui ont énormément de sous-dialectes, qui sont parlées par des communautés diverses et richement structurées, ont un vocabulaire plus important, etc. Mais il n'y a pas de langue, aujourd'hui, il n'y a pas de langue primitive dont les moyens d'expression seraient radicalement plus pauvres que ceux de nos langues de, comme on dit, grande culture. Donc cela suggère que les cet enrichissement dont vous parlez est en effet lié à un enrichissement des connaissances, des idées. On a par exemple tout un vocabulaire scientifique, et ça nous amène à la deuxième question que vous posez, qui a enrichi nos langues, mais il n'y a pas une capacité d'expression linguistique qui est radicalement différente entre aucune des langues qui coexistent aujourd'hui dans le monde. Donc ça se laisse à entendre qu'il faudrait remonter fort loin en arrière pour trouver une langue qui serait en un sens véritablement primitive. Et donc ça ouvre un domaine à une spéculation souvent débridée d'ailleurs sur l'évolution des langues. La deuxième question que vous posez, c'est y a-t-il une différence entre la communication de type scientifique dure, disons, prenons l'exemple des mathématiques qui est le meilleur de ce point de vue, et la communication ordinaire, plus ordinaire des idées? Bien, il est évident que dans une communication de type mathématique, un effort constant est fait pour laisser le moins possible à l'inférence automatique, au processus d'inférence, de laisser le moins de place possible à l'implicite et de présenter les choses de façon constamment aussi explicite que possible. C'est une condition d'une bonne communication scientifique que de savoir à tout moment quelle hypothèse exactement est soutenue par l'un ou par l'autre, quelle démonstration est proposée exactement par l'un ou par l'autre pour pouvoir, le cas échéant, la remettre en cause. Ce que je voudrais simplement suggérer, c'est que même dans ces cas extrêmes, les mathématiques sont probablement le cas le plus extrême, il reste une dimension pragmatique, il reste des processus de compréhension spontanée, les formes d'expression ne sont jamais totalement dépourvues d'ambiguïté, elles n'encodent jamais totalement le vouloir dire des locuteurs, simplement la place qui est laissée à l'interprétation inférentielle est réduite à un minimum. Donc il y a, si vous voulez, à mes yeux, un continuum de cas entre une communication qui laisse une grande part à l'implicite, prenons un cas extrême, qui est la communication poétique, si vous voulez, ou littéraire, où la part de l'implicite est immense, où le rôle de l'interprète, du lecteur-interprète est immense, d'une part, et le cas à l'opposé des mathématiques où la part de l'implicite est le plus faible possible, il y a un continuum de cas entre les deux. On n'a pas affaire à deux types de communication radicalement différents.
Question ici. Bonjour. Dans votre livre principal, vous parlez des origines du langage à un moment donné, et vous rapprochez d'une façon peut-être volontairement caricaturale cette découverte de la trouvaille que fait un éléphant lorsqu'il se rend compte qu'il peut utiliser sa trompe pour saisir également des objets. Ma question est, pourquoi à un moment donné y a-t-il eu ce passage des intentions, de la communication inférentielle du discours au langage proprement dit? Qu'est-ce qui explique ce passage?
Merci de votre question. Là, c'était une allusion à un passage du livre que je mentionnais en début d'exposé, où nous faisions le parallèle suivant. Imaginons une société savante d'éléphants qui se demanderait de façon docte si les autres espèces sont véritablement disposent véritablement d'un nez, puisqu'après tout, ils ne sont jamais capables de prendre quoi que ce soit avec. Et puis, il y aurait quelques chercheurs éléphants qui auraient entraîné quand même quelques autres animaux à pousser des objets avec leur nez, disant « Ah, si, si, il y a quand même les rudiments d'un nez chez les autres espèces. » Bon, l'erreur consisterait à penser que la fonction préhensile de la trompe d'éléphant est ce qui caractérise un nez, alors que c'est une espèce de fonction secondaire née sur un organe dont très répandu dans les espèces vivantes et dans la fonction principale, évidemment, liée à la respiration. Alors, l'idée était notre parallèle était le suivant. Il y a un sens très général de l'idée de langue. Une langue, c'est un système de représentation. Pour représenter des états de choses, pour avoir un système cognitif, il faut disposer d'un système de représentation qui a des expressions, qui, s'il est un peu riche, doit avoir une syntaxe. Et donc, il y a en ce sens, par exemple, une langue des ordinateurs, ou des langages d'ordinateurs, et il y a une langue de la pensée. Si le mot langue de la pensée vous choque, il y a un système de représentation interne qui permet à tous les êtres dotés de capacités cognitives, et il n'y a pas seulement les êtres humains, il y a d'autres animaux, y compris des animaux qui ne sont pas des animaux communicants, ils ont un système de représentation interne qui leur permet donc de se représenter leur environnement et de se représenter aussi les changements qu'ils veulent y apporter. Donc nous disions, l'idée même de langue, qui est l'idée de mettre ensemble, d'avoir un couplage entre d'une part des expressions qui peuvent être des états mentaux, des états cérébraux, et d'autre part un sens, un contenu qui représente un état de choses dans le monde, cette propriété fondamentale du langage est indépendante de la communication. C'est une propriété qu'on doit trouver dans tout système cognitif. Et alors l'idée originale, en quelque sorte, semblable à celle des éléphants qui ont eu, entre guillemets, l'idée de se servir de leur nez pour prendre des objets, eh bien, les êtres humains ont eu l'idée originale de se servir de ce système de représentation, pas seulement pour connaître le monde, mais pour communiquer entre eux. Et de même que la trompe des éléphants est un nez très particulier qui s'est énormément allongé, de même, le système de représentation interne, le langage de la pensée, a évidemment pris des formes nouvelles, puisqu'il a pris des formes externes, des formes d'expression non plus seulement cérébrales, mais environnementales, des sons, pour devenir un moyen de communication. Donc c'était ça l'idée que nous essayons de développer. Bien sûr qu'elle est caricaturale, mais c'était pour donner à repenser le rapport entre un système de représentation et la fonction de communication du langage. Et ce que j'ai essayé d'expliquer aujourd'hui encore, c'est au fond que la possibilité du type de communication que les humains ont et la possibilité de se servir de ces langages, de ces langues humaines, qui sont d'une part sont extraordinairement riches, sans comparaison avec quoi que ce soit dans le monde animal, mais qui d'autre part sont pleines d'ambiguïté, de sous-détermination, d'équivoques, ce qu'on ne trouve pas non plus dans les systèmes de signaux animaux, pour expliquer comment ce langage à la fois extrêmement riche mais en même temps très déficient comme code peut servir à la communication, il faut remonter, il faut donner un rôle plus important au mental et pas mettre la communication linguistique en premier, ce qui est à l'opposé de toute une tradition philosophique qui pense que la possibilité même de la pensée est inscrite dans le langage, qui mettra le langage dans son aspect public en avant. Donc il y a un choix de cet ordre-là. Enfin, je ne sais pas si je réponds à votre... Alors, comment est-ce que ça s'est produit historiquement? C'est-à-dire, comment est-ce que les êtres humains ont été amenés à se servir, au fond, de leur capacité à représenter des états de choses pour communiquer, donc à la rendre publique, à la manifester extérieurement? D'abord, je n'en sais rien, bien sûr, donc nous spéculons là-dessus. Ce sont des spéculations sur l'origine du langage. Et le côté particulier, disons, de la spéculation que je vous ai proposée aujourd'hui est le suivant, c'est de dire il fallait qu'ils communiquent déjà pour que ça vaille la peine, pour que ça se devienne avantageux, pour qu'évolue un langage spécifiquement du type des langues humaines, qui, encore une fois, ne ressemble pas du tout au système de signaux animaux. Et dans quelles conditions est-ce qu'ils pouvaient communiquer déjà ? Eh bien, c'est s'ils avaient non seulement un système de représentation intérieure riche, mais assez riche pour représenter les états mentaux d'autrui. Ils devaient avoir cette capacité d'attribuer des états mentaux à autrui. Et si on regarde, encore une fois, d'un point de vue de l'évolution, quand on regarde les autres grands singes les plus proches de nous, les chimpanzés, les gorilles, etc., ils ont tout au plus des versions très rudimentaires de la chose. Donc cette capacité très fluide, très rapide, très riche d'attribuer des états mentaux à autrui, elle a dû apparaître quelque part entre 5 millions et 200 000 années, c'est-à-dire entre la séparation d'avec les autres grands singes et l'apparition d'Homo sapiens. Quand ? Je ne sais pas.
Oui, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous apportent les schizophrènes et les paranoïaques du côté du langage ? Par exemple, un schizophrène qui dirait, comme je l'ai entendu, je passe à côté d'une église, l'église devient moi, j'ai plus de limite entre l'extérieur et l'intérieur. Et un paranoïaque qui a un excès de sens projeté sur tout sens. Et puis, qui n'a pas à voir avec l'intelligence, ni la capacité d'appréhension d'un concept.
C'est des questions sur lesquelles je ne suis pas vraiment, véritablement compétent pour vous répondre. Concernant la schizophrénie en particulier, je lis des travaux en particulier sur le langage des schizophrènes, mais vraiment pas assez pour pouvoir apporter une opinion ou un avis particulier. Concernant l'utilisation du langage et de l'interprétation par les paranoïaques, il me semble qu'on est plus près des choses dont je parlais. Il y a une espèce de ce qui se passe dans le cas de la paranoïa, peut-être, c'est un certain type de surinterprétation, comme vous le disiez, qui est guidé par les types de considérations de pertinence dont je parlais. Il y a une présomption de pertinence à la fois dans les propos et les comportements d'autrui, mais pratiquement dans tous les événements, et qui sont vus par le paranoïaque comme se rapportant systématiquement à lui. Donc une espèce de surinterprétation, mais une surinterprétation qui exploite le type de mécanisme guidé par des considérations de pertinence auxquelles j'ai fait allusion ici, en le poussant beaucoup plus loin et en perdant un certain nombre de considérations contextuelles, de connaissance de comment fonctionne le monde et les interactions humaines, qui devraient bloquer le processus. Mais plus généralement, votre question est en effet éminemment intéressante, en ce sens que pour bien comprendre le fonctionnement du langage, il faut aussi en comprendre ce qu'on peut décrire comme des dysfonctions. Il y a les dysfonctions de grandes pathologies comme celles auxquelles vous faites allusion, et aussi ces dysfonctions ordinaires de notre vie quotidienne, ou simplement qu'on ne réussit pas à se faire comprendre quand une ambiguïté n'est pas levée. Et une bonne théorie de la compréhension linguistique doit comporter une explication des échecs de la compréhension, des échecs de la communication, encore une fois, dans les formes banales et dans les formes extrêmes. Et de ce point de vue-là, je voudrais simplement, sans aller plus loin, souligner la différence entre le type d'explication auquel on aboutit si on se part du modèle du code et le type d'explication auquel on aboutit si on parle du modèle inférentiel. Si l'on parle du modèle du code, les échecs de la communication sont typiquement attribués à deux types de causes. Soit les interlocuteurs n'ont pas véritablement le même code. Il y a une absence d'identité entre les codes. Et donc le défaut de compréhension vient au fait que le destinataire ne peut pas reconvertir le signal dans le message voulu. Premier type d'erreur de communication. Deuxième type de défaut de communication. Deuxième type, le bruit, tout simplement. C'est-à-dire que le signal est détérioré d'une façon ou d'une autre par des interférences d'un type ou d'une autre. Voilà les sources d'explication des échecs de la communication dans le cadre du modèle du code. Dans le cadre du modèle inférentiel, la situation est différente. Dans le cadre du modèle du code, si les codes sont pareils et qu'il n'y a pas de bruit, la communication devrait marcher parfaitement. Dans le cadre du modèle inférentiel, on ne s'attend de toute façon pas à ce que la communication marche parfaitement. Il y a toujours un travail d'inférence qui n'est pas de l'ordre de la déduction mathématique, qui comporte toujours un risque cognitif, et donc la communication marche plus ou moins bien. Et aussi, dans cette perspective inférentielle, on ne voit pas comme but ordinaire de la communication de créer véritablement une identité des pensées entre le locuteur et le destinataire, mais plutôt comme but de les faire converger de façon qui peut être plus ou moins étroite selon les buts de la communication. Dans le cas de la communication mathématique ou légale, d'ailleurs, on cherche une convergence, une correspondance des pensées le plus précise possible dans des tas de cas de conversation, au fond, aller dans la même direction, voir les choses de la même façon, partager des impressions est suffisant. Et donc les échecs de la communication dans la perspective inférentielle, seront des échecs liés au processus inférentiel et à la conception qu'on avait le locuteur. Si le locuteur se trompe sur ce qui va être pertinent pour le destinataire, alors là, le risque d'échec de la communication est grand. Si le destinataire, si l'auditeur a une conception de ce qui est pertinent pour lui, qui est très idiosyncratique, qui lui est très particulière, alors il aura tendance à interpréter les choses de façon assez systématiquement erronée, et les gens qui essaient de communiquer avec lui auront le plus grand mal à le faire. Et de même, s'il se trompe, si un locuteur se trompe systématiquement sur ce qui est pertinent pour autrui, ce qui est probablement le cas des schizophrènes, à ce moment-là, la communication échouera à nouveau, parce que non pas tellement à cause d'une différence de code, il peut ne pas y en avoir du tout, mais à cause d'une différence sur le modèle que chacun se fait de l'autre.
Bonjour. Vous utilisez le mot « infaire » et pas le mot « imagination ». Pourquoi ? Et deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un dialogue entre « inférer » et « imaginer » de la part du locuteur ou du récipiendaire ?
Très, très bonne question. Je disais juste à l'instant que le genre d'inférence dont il s'agit dans le cas de la compréhension, ce n'est pas de la déduction. C'est une inférence à risque, c'est une inférence non démonstrative, comme on dit aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un type d'inférence qui doit s'appuyer en partie sur l'imagination. C'est-à-dire qu'il faut il y a un aspect de formation d'hypothèses. Il faut former des hypothèses, ce qui est un acte imaginatif, sur le vouloir dire du locuteur, sur ce que veut dire le locuteur. Donc, évidemment, la communication ne marcherait pas si on imaginait simplement ce que veut dire le locuteur sans l'inférer, c'est-à-dire sans avoir un processus qui a tendance à donner des conclusions justifiées par les prémices dont on part, donc à donner une interprétation justifiée par le sens linguistique et le contexte. Mais il n'y a pas de déduction du sens linguistique et du contexte jusqu'au sens voulu par le locuteur. Il y a en effet un certain travail imaginatif de formation d'hypothèses qui contribue à la compréhension. Et en effet, parmi les défauts ou les échecs qu'il peut y avoir dans la communication, c'est si c'est l'imagination, au fond, va au-delà de ce qu'avait anticipé le locuteur et donc donne une interprétation qui pourra être riche, intéressante et peut-être valoir la peine pour l'auditeur, mais qui ne constituera pas une compréhension véritablement réussie.
J'ai bien compris que tout code est trop pauvre par rapport au vouloir dire chez l'homme. Autrement dit, est-ce que c'est le vouloir dire qui est phylogénétiquement plus important chez l'homme et qui a fait qu'on a abouti à cette astuce qui est la méta-représentation? Et d'autre part, est-ce que, dans l'ontogénèse, est-ce que le code, un code relativement simple, n'est pas suffisant chez le bébé, par exemple, et lui n'a pas besoin de méta-représentation? À partir de quel moment vous estimez qu'il faut qu'il ait des méta-représentations pour suivre le développement d'un homme?
Deux questions. Je commencerai peut-être par la dernière, sur l'aspect du développement du bébé et de l'enfant. Un ensemble de travaux récents tente à montrer, d'une part, que les bébés ont déjà des capacités métarepresentationnelles, sont déjà capables de voir les comportements d'objets animés comme mus par des intentions. Et de façon plus directement pertinente par rapport à votre question, un ensemble de travaux tendent à montrer, par exemple ceux de Paul Bloom aux États-Unis, tendent à montrer que l'acquisition du vocabulaire dépend de la reconnaissance de l'intention du locuteur. C'est-à-dire, pour comprendre que le locuteur, l'adulte par exemple, qui emploie le mot chat pour désigner un chat, que le mot chat désigne chat, il faut comprendre que le locuteur, à ce moment-là, veut parler du chat et pas du chien qui est à côté. Donc il faut reconnaître une intention. Et dans des contextes où on empêche la reconnaissance d'intention, l'acquisition du vocabulaire ne se fait pas. Donc je pense qu'il y a une interaction beaucoup plus étroite entre l'acquisition du langage et la capacité du méta-représentationnel. Ce n'est pas que l'une émerge après l'autre, elles se développent ensemble. Concernant votre première question, vous paraphrasiez ce que je disais d'une façon un peu provocative, comme ça, provocante, en suggérant qu'au fond, en tout cas, je la ressens comme ça, et je voudrais la nuancer, selon laquelle les codes seraient humains, le code de langage serait nettement plus pauvre que notre vouloir dire. Ce n'est pas exactement en ce sens que je l'entends. La richesse du langage me paraît absolument indéfinie. Mais il y a toujours il y a du jeu. Il y a du jeu entre les deux. On n'a pas besoin, pour communiquer ces vouloir dire indéfiniment renouvelés, d'avoir une expression exacte du vouloir dire, parce qu'on peut s'appuyer sur le contexte et sur les capacités inférentielles des auditeurs. Et aussi bien le langage, les expressions linguistiques, et après tout, chaque phrase est nouvelle et on peut en fabriquer des nouvelles constamment, sont indéfiniment perfectibles et donc d'une complexité qui n'a pas d'une richesse qui n'a pas de limite intrinsèque, et de même pour nos vouloir dire, pour les intentions, pour le sens voulu par le locuteur. Donc le point n'est pas que le système du langage serait en un sens nettement plus pauvre que le système de la pensée, ça pourrait se soutenir, je le soutiendrai sur certains points, mais c'est assez limité, dans la mesure, encore une fois, l'un et l'autre sont indéfiniment augmentables et perfectibles, mais le point est plutôt que dans un acte de communication particulier, l'utilisation du code reste typiquement très en deçà du sens voulu. Et ça s'arrête là.
Bonjour monsieur, je me pose des questions, enfin je vous remercie beaucoup pour votre exposé, il est très bien, il est très clair, mais j'en déduis donc que le sens permet l'expression de l'intelligence et du savoir communiquer, n'est-ce pas? Bon, mais alors l'intelligence, est-ce que c'est aussi de ne pas se laisser influencer? C'est-à-dire, pour reprendre l'exemple de Pierre et Marie, est-ce que Pierre qui se laisse influencer, il est plus intelligent que le Pierre qui goûte simplement la baie pour savoir si Marie a raison pour goûter pour lui-même?
C'est une question, la question que vous posez est une question absolument cruciale. Elle est absolument cruciale pour comprendre l'évolution même de la communication humaine. Pourquoi ? Parce que d'un certain point de vue, on pourrait dire que la communication, c'est un pur avantage pour une espèce d'être capable de communiquer comme le sont les êtres humains, car après tout, du moment où je suis un être communicant, je ne dépends plus pour mes savoirs et mes savoir-faire seulement de ma propre expérience, seulement de mes propres perceptions, seulement de mes propres essais et erreurs, je peux bénéficier des perceptions, des inférences, des essais et erreurs d'autrui. Donc une espèce d'augmentation de notre potentiel de connaissances et de savoir-faire qui est absolument sans limite grâce à la communication. Alors on se dirait, si on pouvait s'arrêter là, on dirait que la communication est une espèce de pur bienfait, et on s'attendrait, par exemple, dans une perspective darwinienne, à ce qu'elle ait évolué de façon d'une richesse comparable à celle qu'on trouve dans l'espèce humaine, chez à peu près toutes les espèces. Mais non, il y a un argument darwinien bien connu, qui ne concerne pas particulièrement la communication, mais qui concerne plus généralement la coopération. La communication étant une forme particulière de coopération. Pourquoi ? Il y a évidemment des espèces sociales et il y a de la coopération à l'intérieur des espèces animales. Mais il n'y a pas une coopération tout azimut et en tout cas. Parce que, il y a cela une raison qui est très compréhensible d'un point de vue évolutionniste, à l'intérieur d'un groupe, d'une société, d'une espèce où les individus coopèrent entre eux, celui qui sera le plus avantagé sera celui qui tirera les bénéfices de la coopération sans en payer le prix. Le tricheur. Donc, d'un point de vue darwinien, où on prédit que va évaluer le comportement le plus avantageux du point de vue de la capacité de survivre et de se reproduire, eh bien, le comportement de tricheur, le comportement, encore une fois, qui compte en anglais, on dit free rider, de tirer bénéfice de l'activité coopérative des autres sans s'y engager soi-même, devrait dominer. Mais à ce moment-là, plus le nombre de tricheurs augmenterait, plus moins la coopération serait bénéficiaire au groupe, et donc les systèmes de coopération devraient être instables. Et en effet, probablement le sont, et c'est pour ça qu'il y a plein d'espèces animales qui ne sont pas des espèces qui coopèrent, etc. Alors, cet argument repris à propos de la communication, vous allez voir que je viens très précisément à votre question, repris à la communication dit ceci. Oui, la communication est une forme de coopération extraordinairement avantageuse, mais elle nous rend en même temps vulnérables à la manipulation par autrui, à la fausse information, à un point extrême. Et donc, on est en face du problème suivant, qui est un problème, au fond, au niveau de chaque individu, mais aussi au niveau de l'espèce, qui est comment bénéficier de la communication sans en être la victime. Et on a un problème de filtrage, de bien calibrer. Évidemment, si je veux ne jamais être trompé, comment n'être jamais victime d'un menteur? Je vais vous donner une solution extrêmement simple. Il y a une solution, vous ne serez jamais victime d'un menteur si vous ne croiriez rien. Mais ça ne vaut pas le coup. Parce qu'évidemment, si vous ne croyez rien, vous allez perdre tout le bénéfice de l'information que peut vous donner autrui. Donc le problème, c'est de quand croire, quand ne pas croire, quand accepter les indications données à autrui, quand ne pas les accepter. Et il y a un problème donc, de filtrage, et je pense que c'est un autre sujet intéressant. Je pense qu'il y a un ensemble de mécanismes cognitifs qui nous permettent d'apprécier, non pas de façon parfaite, quand faire confiance, quand pas faire confiance. Alors, il y a, par exemple, il y a des gens, d'abord, il y a une espèce d'appréciation de qui est autrui, quel est le rapport d'autrui avec nous-mêmes, est-ce qu'autrui est bienveillant ou n'est pas bienveillant. Et donc, ça, c'est un des facteurs qui détermine notre capacité ou volonté d'accepter ce que nous dit autrui. Il y a un autre facteur qui est la reconnaissance de la compétence d'autrui. Après tout, je peux croire Marie à propos des baies, mais ne pas la croire à propos de l'heure à laquelle part le train, etc., etc. Donc il y a des considérations de la compétence qu'on reconnaît autrui. Et puis il y a une espèce d'examen qui est fait, de la cohérence des propos qui sont tenus, de leur compatibilité avec ce que je pense déjà. Donc on a tout un ensemble de mécanismes de filtrage. Donc la question de savoir qui est le plus intelligent, celui qui croit, celui qui ne croit pas, eh bien c'est certainement pas celui qui croit tout, et c'est certainement pas celui qui croit rien. C'est celui qui calibre de façon fine capacité à, ou sa disposition à croire ce que lui dit autrui, à une appréciation juste de la bienveillance, de la compétence d'autrui.
Et c'est...
Oui.
Juste une dernière et rapide question. Rapide. Hein,
je vous avais peut-être évoqué ça parce que j'ai manqué le début de la conférence. Je voulais savoir comment s'insérait dans votre système le sens qui passe indépendamment de la volonté ou du discours employé par le locuteur. Je veux dire par là toutes les choses qui traduisent une réticence par rapport à ce qu'on dit, qui sont l'expression de l'inconscient, qui sont des attitudes qui sont en décalage par rapport au discours.
En effet, une dimension essentielle de la transmission d'informations, de la communication entre les êtres humains, et tout cet aspect à la fois involontaire, très souvent peu ou inconscient, peu conscient ou inconscient, où on révèle des choses de soi-même sans l'avoir voulu. On est là dans une notion de communication dans un sens très large. Je parlais de la communication dans un sens large aussi, mais plus étroit, qui est la communication intentionnelle. Comment est-ce que, ayant un certain vouloir dire, voulant dire quelque chose, ayant un certain sens que je veux communiquer, je parviens à le faire, ou inversement, comment, comme auditeur, je reconnais le sens voulu par un locuteur. Mais vous avez raison de souligner que passe à travers la communication et d'autres types de comportements, tout un ensemble d'informations ou de sens, si vous voulez, mais à nouveau dans un sens plus élargi de sens, qui vont au-delà de ce qui a été intentionnellement projeté. Il me semble d'une part, ça ne relève pas du modèle inférentiel au sens de la communication tel que je l'ai évoqué ici, mais que d'autre part, lorsque nous avons la capacité de reconnaître ces aspects de sens ou ces informations, ces dimensions informationnelles non voulues par un communicateur, non voulues par un locuteur, nous sommes guidés par des capacités cognitives plus générales, des capacités inférentielles plus générales, et nous sommes guidés aussi par des considérations de pertinence. Et là, on peut revenir à l'exemple qui avait été évoqué précédemment du paranoïaque, qui va surinterpréter toute une série d'indices qui vont évidemment bien au-delà de ce qui a été voulu par les personnes avec lesquelles il interagit, et qui, lui, malheureusement, témoigne d'un certain défaut du mécanisme inférentiel. Il est là à surinterpréter constamment non seulement le vouloir dire de ses interlocuteurs, mais tout ce qu'il leur attribue comme du sens non voulu, mais néanmoins transmis. Et donc, pour répondre bien à votre question, ce que je ne pourrais pas faire ici, il faudrait la replacer dans le cadre d'une conception plus générale de la psychologie, en faisant plus de place à la fois à la cognition et aux émotions, et en comprenant bien que l'activité de communication s'insère à l'intérieur de ces processus psychologiques plus larges.
Je vous remercie.